Merci Emmanuel. Alors ma réponse ne va pas en être une. Je vais essayer plutôt de compléter les propos de Monsieur le Président Van den Bosch avec la question des cadres linguistiques, qui est aussi effectivement une arlésienne ou une antienne vraiment récurrente à Bruxelles et dont comment dire les difficultés en fait remontent également, ça je confirme effectivement, à la législation de 1963. Je vais pas revenir aussi, parce que je partage entièrement son opinion, sur le décalage qu'on peut constater aujourd'hui entre une législation linguistique qui a été pensée, je parle ici des cadres linguistiques, mais pour feu l'autorité nationale belge, et que l'on est venu plaquer vraiment, sans aucune adaptation, sur les réalités sociolinguistiques bruxelloises en 89. Ça s'est fait au moyen d'une seule disposition législative qui a dit « Ah, voilà, l'article 43 des lois coordonnées s'applique à Bruxelles pour les services gouvernementaux ». Et donc, comme M. Van den Bosch a bien décrit la situation avec les services régionaux, toutes les difficultés les services locaux et régionaux au sens des lois coordonnées. Donc moi, je me concentre plutôt alors sur cette question des cadres linguistiques. Avec donc ce premier constat, donc celui d'un plaquage sur les réalités bruxelloises et d'une non-adaptation, c'est-à-dire que, par exemple, l'article 43, hein, en fait, il y a quelques lignes à l'article 43 des lois coordonnées qui concernent les cadres linguistiques. Même les termes n'ont pas été adaptés aux réalités bruxelloises, donc on applique des alinéas de cet article qui parle notamment de l'usage de l'allemand, alors qu'on est à Bruxelles, donc on doit faire une espèce de mutatis mutandis. Ah tiens, il n'y a pas de germanophone à Bruxelles, en tout cas pas dans les cadres linguistiques. Donc on est vraiment ici dans une situation où on dispose d'une législation tout à fait évasive et qui n'en dit pas assez ou en dit trop à certains égards et donc amène vraiment à des difficultés et à de véritables impasses au niveau de la gouvernance bruxelloise. Alors, on peut peut-être fonctionner de manière chronologique. Hein, donc, à partir du moment où la région bruxelloise, la décision est prise que toutes les administrations gouvernementales, donc les institutions du gouvernement, de la région de Bruxelles-Capitale, de la COCOM, etc., reçoivent les mêmes prescriptions que l'administration centrale, donc les services fédéraux actuellement, eh bien, à partir de ce moment-là, déjà, les difficultés émergent. On est en 89 et il faudra d'abord plusieurs années pour que les premiers cadres linguistiques soient adoptés, notamment pour la plus grosse administration bruxelloise, qui est feu le ministère de la région bruxelloise, aujourd'hui le service public régional bruxellois. Alors, si on reprend effectivement un peu la ligne du temps de ces cadres linguistiques au niveau de la région bruxelloise, eh bien, tout commence effectivement plus ou moins au moment de l'accord de courtoisie linguistique en 1996. Alors, à ce moment-là, donc, on a un arrêté du gouvernement régional qui détermine le cadre organique du personnel, c'est une condition toujours préalable, et puis l'adoption du cadre linguistique. Et il y a une note qui est adressée en 1998 aux membres du gouvernement, et qui s'adresse à ses membres pour préciser que dans l'établissement des cadres linguistiques, parce que toute la difficulté, je vais y revenir, c'est la méthode d'établissement de ces cadres linguistiques à Bruxelles, et bien dans le cadre de l'accord de courtoisie, on décide donc qu'il faudra effectivement réaliser les comptages pour les cadres, donc pour tout ce qui concerne les tâches pour lesquelles il y a une interaction entre l'administré et l'administration. Donc ça, c'est a priori relativement facile à établir. On peut savoir quand un administré s'adresse par email ou par courrier à l'administration, on sait si c'est du néerlandais ou du français. Ça, c'est relativement clair. Même chose avec les contacts téléphoniques, les demandes de formulaires, etc. Tout ça est relativement facile à établir. Le plus difficile, évidemment, dans la tâche d'établissement de cadre linguistique, c'est pour donc toutes les tâches qui ne rentrent pas dans ce cadre. Et donc, à l'époque, le pli suivant est pris par le gouvernement bruxellois. Donc, pour toutes les affaires d'ordre général, les tâches d'études et de conception, le nombre de dossiers traités ne constitue pas une variable. Donc, on ne prendra pas ça en compte. Et on appliquera une proportion de 50% de francophones et de néerlandophones. Donc le critère du volume de travail pour déterminer les pourcentages des cadres, ça ne concerne que les tâches d'exécution. Et donc on a un premier donc cadre linguistique le 6 mai 1999, c'est-à-dire 10 ans déjà après la mise en place de la région de Bruxelles-Capitale. Et c'est là que les ennuis vont commencer, hein, pour le MRBC, vu que le ministère a vu ce cadre linguistique annulée par le Conseil d'État à 3 reprises sur une période d'une dizaine d'années. Alors les conséquences de cette absence, de l'annulation de cadres linguistiques sont évidemment tout à fait dévastatrices pour ce service, vu la rigidité ou la sévérité de la législation linguistique. Donc en pareil cas, pas de nomination, pas de promotion, rien du tout. Tout est bloqué au niveau du parcours individuel des agents dans leur carrière, et on ne peut tout simplement pas engager, même suite à une démission d'un agent. Donc on imagine un peu les difficultés administratives pour ces institutions. Alors je vous l'ai dit, donc principalement c'est le MRBC qui a fait les frais de cela, donc de recours introduits par des associations, on va dire, comment dire, francophonissime, ou parfois c'était l'inverse des associations néerlandophones, mais le MRBC en a fait les frais, mais il n'a pas été le seul, ça a été rappelé par M. Slutsky. Donc le service d'aide médicale urgente a fait les frais aussi d'annulation au Conseil d'État, et au cours des dernières années, donc il y a eu aussi le cadre linguistique de l'IBGE qui ont été annulés, etc. Donc la problématique est générale pour tous les services qui dépendent du gouvernement de la région de Bruxelles capitale. Alors, on peut ajouter à ça, donc, à ces difficultés, donc, à ces administrations qui se retrouvent bloquées suite à des annulations de leur cadre linguistique, et M. Mavanenbosch en parlait, finalement, toute une série d'institutions à Bruxelles qui clairement fonctionnent en marge de la légalité, pour la raison suivante, c'est que des cadres linguistiques ont été adoptés dans la plupart des cas, mais ces cadres n'ont jamais, et tant mieux pour ces institutions, été contestés au Conseil d'État. Donc ça ne veut pas dire évidemment que ces cadres résisteraient une seule minute à un contrôle serré de la part du Conseil d'État si on devait demander les écarter sur la base d'une exception d'illégalité ou si de nouveaux cadres étaient adoptés. À côté de ça, il y a effectivement aussi des institutions qui fonctionnent carrément là, en dehors de la légalité au regard des lois sur l'emploi des langues, et l'exemple de la STIB en est effectivement le meilleur. Donc on a là une des plus gros, le premier employeur bruxellois, je crois, mais donc avec un statut partiellement public, pour lequel donc il n'y a aucun cadre linguistique à ma connaissance, et le constat est le même depuis la création de la STIB. Alors donc, une jurisprudence clairement dévastatrice du Conseil d'État, des organismes qui fonctionnent en marge de la légalité, un impact considérable donc sur la fonction publique bruxelloise et qui, je risque d'insister, mais crée véritablement parfois un sentiment profond de frustration pour les agents de la fonction publique bruxelloise, dont de nombreux sont tout à fait méritants, et qui voient comme ça leur parcours personnel tout à fait bloqué par la jurisprudence du Conseil d'État et la législation linguistique. Alors bon, les différentes administrations ont essayé évidemment de pallier ces difficultés, et ça passe notamment par des questions, je l'ai dit, de méthodologie d'établissement des cadres. Parce que quand le Conseil d'État annule des cadres linguistiques, c'est généralement parce qu'il considère, même dans tous les cas, que la manière dont on a calculé les pourcentages de ce cadre, la méthode de calcul, la méthode de qualification des différentes activités prestées par les fonctionnaires, tout ça est insuffisamment motivé, soit ne repose sur aucune méthodologie ou presque, ou une méthodologie très approximative. Mais alors, c'est important évidemment pour la conclusion de cette conférence, mais on se retrouve avec un texte, donc je l'ai dit, fédéral, dépassé, et qui surtout ne propose pas le moindre élément de réponse, le moindre indice sur la méthode qu'il faudrait appliquer pour élaborer des cadres linguistiques au niveau bruxellois et même au niveau fédéral. Avec évidemment la difficulté supplémentaire à Bruxelles que si on peut encore estimer que des cadres au niveau fédéral peuvent reposer sur une répartition allant de 50% à 60-40 en fonction des besoins des services, à Bruxelles la question est différente. Il y a une présence moins importante, non pas de néerlandophones, mais de personnes utilisant le néerlandais comme langue de contact avec les autorités publiques. Et ça, c'est une chose. Donc, on entend évidemment régulièrement dans la presse des appels de certains partis ou de certains politiques de dire « Mais maintenant, il faut arrêter avec ces histoires. Les cadres linguistiques, ça doit recouvrir les réalités bruxelloises. Donc, au moins 90% pour les francophones, voire 92%. » Et puis, il y a quelques partis politiques qui se sont fait la spécialité, comme ça, d'interroger des organismes différents, la DVI, etc., pour avoir une idée de quel serait le nombre de flamands à Bruxelles. C'est toujours des questions très indirectes, puisque c'est la langue, évidemment, dans laquelle la personne s'adresse à l'administration. maison, ça ne dit rien encore sur la langue qu'ils parlent à la maison. Et donc on a d'un côté comme ça des tensions politiques qui voudraient voir quelque part les cadres linguistiques correspondre à une réalité plus ou moins fantasmée sur le nombre de néerlandophones ou de personnes qui emploient le néerlandais à Bruxelles. Ça, c'est un pôle. Et puis, de l'autre côté, effectivement, une thèse qui est supportée davantage par les partis politiques néerlandophones, mais qui correspond aussi à une réalité, c'est que vous ne pouvez pas établir sérieusement un cadre linguistique où le nombre de néerlandophones serait tellement insuffisant que le service, dans son entièreté, ne puisse fonctionner au quotidien de manière bilingue. Parce qu'à partir du moment, je ne sais pas, où on a 5% ou 10% de néerlandophones, par rapport au nombre de demandes qui sont adressées aux administrations, un nombre tout à fait réduit d'agents néerlandophones, évidemment, ne serait pas en mesure de suivre le travail de traduction, de réponse aux emails, etc. Donc ça, c'est un élément de base, je dirais, plutôt politique. On se rend compte aussi quand, et ça c'est vraiment de l'observateur extérieur, hein, mais que quand on observe les résultats des cadres linguistiques adoptés par les institutions bruxelloises, on se retrouve grosso modo toujours dans une même répartition, en tout cas quelque chose qui oscille, je dirais, entre un rapport 70% et 30%, et ça c'est inacceptable, c'est la limite de l'inacceptable pour les francophones, et 75% ou 25% qui est la limite de la... Enfin, je devrais inverser, mais donc 30% néerlandophones ou 25% ça aussi. Donc on a des cadres à 72, 28, etc. Toujours plus ou moins les mêmes chiffres. Ce qui paraît évidemment de l'extérieur assez étonnant dans la mesure où la plupart de ces institutions bruxelloises exercent des métiers différents qui les mettent de manière plus ou moins régulière en contact avec le public. Et donc on devrait avoir des résultats qui varient un peu davantage. Alors là-dessus pèse aussi, pour dire dans quel brouillard de soupçons, on évolue aussi. Là-dessus pèsent aussi systématiquement depuis des années des soupçons fondés ou non, ça je n'en sais rien, mais de manipulation politique dans l'établissement des cadres linguistiques où, quelque part, certaines institutions préparaient un projet de cadre linguistique. Et puis quand on voit le résultat final, c'est à se demander si on n'a pas un peu touché aux chiffres pour arriver à un résultat qui soit acceptable par le monde politique, ou en tout cas la compréhension qu'a le monde politique de ce que doit être un cadre linguistique équilibré à Bruxelles. Donc, difficulté politique, difficulté, je l'ai déjà mentionné, méthodologique, ça je peux peut-être un tout petit peu approfondir. Donc, il faut dire que cette distinction qui a été faite à partir de 1998 et qui ajoute aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, c'est-à-dire une distinction entre certains types de tâches. Donc on n'est pas loin de la distinction ouvrier-employé. Hein. Il y aurait les tâches intellectuelles de direction, de conception, qui devraient être immunisées des comptages, et les tâches plutôt d'exécution, quasi-manuelles aussi, hein, qui devraient, elles, faire l'objet d'un comptage. Alors la difficulté, c'est que cette méthodologie, en tout cas cette répartition entre grands types de dossiers et dont certains sont immunisés d'un comptage, s'est fait systématiquement démolir dans les arrêts du Conseil d'État, qui considère qu'il n'y a aucune légitimité, aucun fondement à cette distinction, qu'il n'y a pas comme ça des dossiers ou un volume de travail qui devrait être immunisé de comptage. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui revient dans tous les arrêts du Conseil d'État ayant annulé des cadres linguistiques. Or, il est vrai que cette distinction entre différents types de tâches permettait, à partir du moment où les tâches de direction ou les tâches plus pratiquées par les fonctionnaires les plus élevés dans la hiérarchie sont systématiquement comptées à 50%, ça permet évidemment de faire diminuer le ratio qu'on obtient sur la base donc du travail effectué au quotidien par les fonctionnaires. Donc ça a été reproduit dans des dizaines et des dizaines de cadres linguistiques qui, heureusement, n'ont pas été attaqués par le Conseil d'État, mais on retrouve ça plus ou moins partout. Ensuite, jusque 2013, on s'est basé, l'essentiel des institutions bruxelloises, en tout cas sur une méthodologie qui avait été élaborée par la Commission permanente de contrôle linguistique, mais qui, elle aussi, à certains égards, a été démentie par la jurisprudence du Conseil d'État. Je me permettrai même de généraliser le propos en disant que si l'on observe les principaux arrêts du Conseil d'État sur les cadres linguistiques à Bruxelles, chaque fois qu'un cadre linguistique a été annulé, ce cadre linguistique avait fait l'objet d'un avis favorable, voire favorable unanime au niveau de la commission permanente de contrôle linguistique. Donc, du point de vue des gouvernants ou des personnes qui, au sein de ces ministères, établissent ces cadres linguistiques, évidemment, il y a ce sentiment d'avoir fait comme on nous avait dit de faire, comme il fallait le faire, selon une méthodologie. Et puis, en fait, malgré cette méthodologie qui permettait quand même un tout petit peu de rationaliser le processus, hop, on se prend une claque magistrale au Conseil d'État. Donc, et alors, problème ultime pour le praticien, c'est que ces arrêts du Conseil d'État se contentent généralement de rappeler une jurisprudence tout à fait générale sur les cadres linguistiques et puis de pointer une ou deux incohérences en termes de motivation formelle des actes administratifs qui, évidemment, ne donnent aucune instruction ou aucune possibilité pour l'interprète de dégager ou de reconstruire une méthode qui, elle, passerait par au-delà donc des fourches du Conseil d'État. Donc on se retrouve avec des administrations qui doivent établir des cadres à intervalles réguliers, pour autant qu'elles les renouvellent à intervalles réguliers, parce qu'un cadre linguistique c'est maximum 6 ans, donc idéalement c'est renouvelé plus souvent, et on constate qu'il y a des institutions bruxelloises qui ont gardé pendant des dizaines d'années parfois le même cadre, les mêmes pourcentages. Et donc, difficulté à établir une méthode qui passe enfin la rampe du contrôle du Conseil d'État. Il faut savoir que le Conseil d'État, notamment, exige que le comptage se fasse sur la base du nombre de dossiers, mais également et surtout sur la base du temps consacré aux différents types de dossiers. Alors, vous vous retrouvez donc avec une variable numérique en nombre de dossiers et une variable en termes de temps qui doit être conciliée. Donc, comment concrètement est-ce que vous faites ? Est-ce que vous prenez le travail de tous les fonctionnaires du ministère de la région bruxelloise, 2000 agents plus ou moins, en comptant chacun les heures de travail qu'ils ont fait, vous imaginez un peu le boulot pour reconstituer ça, en arrivant avec des centaines de milliers d'heures de travail prestées que l'on doit recaser selon des critères linguistiques tels que c'est un document interne, donc ça doit être en principe 50%, 50%. Là, c'était un coup de fil qui a été passé par un citoyen francophone. Donc là, c'est la langue de l'administré. Donc voilà, se retrouver comme ça avec une espèce de montagne de travail et quelque part rétive à toute rationalisation. Parce que les critères qui sont mentionnés dans les lois linguistiques sont extrêmement peu nombreux. Et je le dis encore, ont été élaborés il y a très très longtemps. Et donc ne correspondent pas toujours à certains types de tâches de travail réalisées par les administrations. Donc, difficulté principale en raison de l'absence de toute méthodologie en la matière, ou en tout cas, difficulté pour ces administrations d'avoir la garantie que quand bien même ils feraient ce travail tout à fait titanesque à intervalles réguliers, ils soient sûrs que la légalité de ce cadre linguistique soit assurée. Alors, par rapport à ça, le Conseil d'État a quand même fait quelques remarques, notamment dans son arrêt de 2008, je crois, sauf erreur, sur les cadres linguistiques de la région bruxelloise. Oui, c'est ça. Arrêt du 27 mai 2008, et dans une espèce de bitter dictum, le Conseil d'État a voulu ici, sans doute, donner un petit coup de pouce, je ne sais pas, mais en tout cas indiquer la voie qu'il fallait suivre pour les administrations. Et là, je me permets rapidement de citer cette belle langue administrative, mais donc le Conseil d'État juge: par essence, les données qui servent de base à l'élaboration des cadres linguistiques sont susceptibles d'évolution. Ben oui, bien sûr, c'est notamment pour ça qu'on les renouvelle tous les 6 ans, et c'est du bon sens, puisque les cadres linguistiques, en effet, sont censés permettre d'intégrer les éventuelles évolutions démographiques et sociolinguistiques de la population bruxelloise. Donc ces données sont susceptibles d'évolution. Le législateur l'a compris, puisqu'il a notamment fixé une durée maximale de validité. Mais le Conseil d'État rajoute, en tapant un peu sur les doigts du ministère et de la région bruxelloise en général, « Toute l'économie du système suppose que la partie adverse dispose régulièrement de mises à jour de données utiles à la détermination des pourcentages. Il incombe ainsi à l'autorité d'assurer la continuité et le bon fonctionnement des services et de prévoir des outils et des méthodes et plus généralement des moyens qui lui permettent de respecter ses obligations légales. Les critiques de légalité qui ont été examinées sont bien connues du gouvernement bruxellois. Il se conçoit dès lors d'autant moins, parce que le gouvernement bruxellois avait demandé le maintien des effets pour son cadre linguistique, il se conçoit dès lors d'autant moins que le gouvernement invoque ses propres carences pour tenter de limiter les effets du contrôle juridictionnel. » Donc, ici, petit 6 du Conseil d'État, l'air de dire: Mais voilà, plutôt que de faire ça une fois toutes les lunes, ces cadres linguistiques, ou en tout cas tous les 6 ans, sur base de données que vous récoltez alors sur une année, dans le meilleur des cas, sur 6 mois parfois pour certains cadres linguistiques, eh bien, mettez en place des outils méthodologiques, statistiques, qui vous permettent d'alimenter, mais à la limite d'avoir une photographie presque trimestrielle, en fait, hein, des besoins du service en langue néerlandaise et en langue française. Pardon. Ah donc, quelque part, il y aurait un espoir, une porte de sortie à cette impasse si au moins ces administrations disposaient d'outils sérieux, fiables, leur permettant quelque part, le jour où on leur demande d'établir les cadres linguistiques, d'appuyer sur la touche impression et d'avoir comme ça une photographie de la demande auprès des différents services. Alors, pour avoir travaillé un peu sur le sujet, on ne peut pas dire que ce conseil en bon père de famille du Conseil d'État soit respecté par les institutions bruxelloises, par manque de temps, par manque d'agents disponibles pour réaliser ce travail de mise à jour des données. Donc là, toutes les excuses sont sans doute bonnes. Mais en tout cas, le constat est toujours le même aujourd'hui, en 2015. Quand une administration doit faire un cadre linguistique tous les X temps, eh bien, on a chaque fois l'impression de repartir de zéro et de chaque fois aussi réinventer la roue pour les critères d'attribution. C'est un autre problème éternel. Comment attribuer certaines tâches à tel ou tel critère linguistique. Alors, je le dis, c'est facile pour un email qui arrive ou pour un coup de téléphone, mais comment est-ce que vous comptabilisez en termes de français ou de néerlandais le temps consacré à des réunions internes au sein d'un ministère, le temps de traduction effectué par les fonctionnaires néerlandophones pour les documents du français au néerlandais. Vous comptez ça dans la langue des agents, mais ça ne va pas alors parce que c'est la langue des agents qui détermine le pourcentage. Mais en même temps, le compter dans la langue cible, le français, ça ne va que contribuer à diminuer donc la part du néerlandais dans le fonctionnement du service. Donc je pourrais comme ça multiplier les exemples de tâches qui sont comme ça souvent absolument rétives à une qualification selon les critères de la législation linguistique qui, je le répète, sont extrêmement peu nombreux. Donc, difficulté méthodologique, c'est vraiment mon motto, et alors on ne va pas trop taper dessus, mais peut-être aussi une certaine incurie, ou en tout cas un manque de prévenance au sein de certaines administrations que pour mettre en place ces outils, de préférence informatisés, et donc que l'indicatage des courriers se fasse de manière automatique, etc., etc., qu'on puisse anticiper chaque fois. Alors, qu'en est-il donc si on examine maintenant la question à la base de cette conférence, faut-il assouplir la législation linguistique ou renforcer le bilinguisme? Alors, il y a un problème à Bruxelles, ça personne ne l'ignore, et c'est valable aussi bien au niveau communal que dans les administrations régionales. C'est d'abord, ok, c'est très bien de renforcer le bilinguisme, mais encore faudrait-il qu'on puisse engager des agents qui parlent suffisamment le néerlandais. Les hôpitaux bruxellois connaissent bien la problématique. Il y a la concurrence du secteur privé et la concurrence du Brabant wallon et du Brabant flamand. Il y a énormément d'institutions de la communauté et de la région flamande qui sont situées à Bruxelles. Pourquoi aller travailler pour cette institution bruxelloise? Ça n'a vraiment aucune raison, aucun intérêt. Et donc, difficulté, tout simplement, d'abord de disposer du personnel en tout cas néerlandophone et a fortiori donc bilingue. Comme M. Van den Bosch l'a bien rappelé aussi, renforcer le bilinguisme passe aussi par un travail des communautés au niveau des compétences en matière d'enseignement, les programmes scolaires, etc. Donc la région bruxelloise en elle-même, et je dirais même l'autorité fédérale, n'a pas toutes les clés en main. Alors, la question alors suivante, faut-il alors assouplir cette législation linguistique? Et là, je vais rejoindre le constat de mon collègue, mais en y apportant un ou deux compléments, une ou deux nuances. Donc, on a uniquement 4 ou 5 alinéas dans ces lois coordonnées pour établir des cadres linguistiques à Bruxelles. C'est évidemment tout à fait insuffisant, et tous les exemples que je viens de vous donner montrent clairement qu'on a besoin de davantage de précision. Alors, en mettant de côté le fait que l'autorité fédérale désinvestit totalement depuis des années ses compétences en matière d'emploi des langues, notamment dans la région bruxelloise, il y a cette difficulté alors de l'application du cadre fédéral qui devrait rester inchangé à Bruxelles. Alors, j'ai ressorti la note d'Iroupo au moment des négociations de la réforme de l'État, et celui-ci proposait, il n'y avait pas d'équivalent dans la note de Weaver, celui-ci proposait à un certain moment, alors est-ce que j'interprète bien les termes, ça vous le dirait peut-être, mais c'est en tout cas comme ça que la presse les a interprétés, on parlait de fixer légalement des cadres linguistiques. Donc, j'en déduis que on allait sans doute peut-être instaurer quelque part un pourcentage fixe hein, de répartition francophone-néerlandophone, ce qui allait nous dispenser une fois pour toutes de cette tâche ingrate et totalement incertaine quand elle devient contentieuse, de fixer un pourcentage précis. Alors, à supposer que le législateur fédéral intervienne en ce sens, personnellement, je pense qu'il n'aurait pas trop de difficultés, enfin que cette mesure, je pense, résisterait à un contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a quand même une jurisprudence où elle a, à plusieurs reprises, rejeté des moyens pris du principe d'égalité et non-discrimination, tendant à remettre en cause des arbitrages linguistiques qui font partie du pacte fédéral à Bruxelles. Donc ça, ce serait certainement peut-être un obstacle que l'on n'aurait pas. Et alors, on serait dispensé, effectivement, d'établir ces cadres. Mais évidemment, au moment même où on formule la proposition, on se doute déjà que obtenir un accord au sein du gouvernement fédéral et qui en plus puisse vaguement plaire au gouvernement bruxellois sur une répartition fixe, on est parti pour des discussions. Alors c'est quoi? C'est 75-25? C'est 80-20? Sur base de quels critères? Est-ce que c'est le nombre de voitures immatriculées en français ou en néerlandais? Enfin, toutes ces bêtises, passez-moi l'expression. Mais donc, bonne chance aux gens qui négocieront ça. À supposer même, parce qu'on peut toujours y croire, que cela fonctionne et qu'on arrive avec une répartition fixe à Bruxelles pour l'établissement des cadres linguistiques, eh bien je crois alors, et sans vouloir faire l'emmerdeur de service, passez-moi l'expression, mais qu'on perdrait quelque chose qui en soi est intéressant dans la législation linguistique, c'est-à-dire la possibilité donc que ces pourcentages puissent évoluer en fonction des nouvelles missions qui sont attribuées à certaines institutions, en fonction de la nature des missions exercées par ces institutions, parce que quand c'est le port de Bruxelles, ce n'est pas les mêmes réalités que quand c'est chez Actiris, hein, enfin, je veux dire. Et donc, on perdrait ce que je pense être un des éléments encore intéressants dans cette législation linguistique belge, c'est-à-dire le seul moment où l'on a dans ces lois linguistiques une norme dont la portée n'est pas... peut varier. Donc c'est très très rare dans le modèle belge où on essaie de refouler absolument toutes ces possibilités d'avoir une norme flexible ou une normativité avec des degrés divers, etc., qui permettent de prendre en compte le nombre pertinent de personnes qui parlent français et néerlandais. Donc y renoncer totalement, je vous avoue que ce serait sans doute plus facile, on serait dans un cadre plus proche du cadre fédéral, mais on se priverait clairement de cette possibilité de faire adapter le cadre linguistique. Et alors, pour terminer, donc, je parle ici beaucoup de la question des cadres linguistiques à Bruxelles, j'escamote la question des cadres linguistiques au niveau fédéral. Il n'y a pas, il me semble que j'ai quand même beaucoup regardé cette jurisprudence, pas beaucoup, à ma connaissance, voire pas du tout, d'affaires récentes où la légalité d'un cadre linguistique établi au niveau fédéral aurait été remise en cause par des personnes et donc que l'affaire serait arrivée au Conseil d'État. Mais mon sentiment, encore une fois, est que si jamais il y avait plus de recours en ce sens, la fragilité de ces dispositifs de cadre linguistique est tout aussi importante au niveau fédéral qu'au niveau bruxellois, et que je crois qu'il y a de nombreux cadres linguistiques fédéraux qui pourraient sauter sur la base des mêmes arguments, donc de motivation formelle des actes administratifs, etc. Donc je crois que le système est fragile en soi, qu'à Bruxelles il aboutit vraiment à une impasse extrêmement dommageable en termes de gouvernance, en termes de vécu aussi des agents qui sont confrontés à ces réalités, qu'on ne sortira pas de cette impasse à court terme, certainement pas. La sixième réforme de l'État aurait pu en être l'occasion, mais ça n'a pas été. Alors, est-ce que ce sera peut-être la septième? Ça vous pose évidemment la question, mais moi, je n'en ai pas la réponse. Mais encore une fois, je serais sans doute un peu sceptique que tout d'un coup, ça puisse se délier et qu'on puisse trouver une solution plus pratique au niveau bruxellois. Voilà. Si vous avez des questions, je vous en prie. Et sinon, je vous remercie.